Chapitre 18. L'étrange abdication de Nicolas II. Au commencement de 1917, recevant en audience Mireïl Rodzianko, président de la Douma, le tsar Nicolas II lui fait cet incroyable aveu de faiblesse. « Je me suis efforcé pendant 22 ans de faire pour le mieux. Me serais-je tout le temps trompé ?» Le fait est que son règne, commencé en 1894, a connu bien des déboires, dont la désastreuse guerre de 1905 contre le Japon et la révolution consécutive, alors noyée dans le sang. Comble de malheur, le seul fils du couple impérial, le tsarévitch Alexis, est atteint d'hémophilie. C'est pour tenter de résister à cette malédiction que le tsar et plus encore son épouse ont fait entrer dans leur intimité le sulfureux mage Raspoutine, jusqu'à lui conférer un droit de regard sur la marche de l'État. La situation s'est encore aggravée depuis que Nicolas, en septembre 1915, a choisi de prendre lui-même la tête d'un état-major déstabilisé par les cruels débuts de la Grande Guerre. Demeuré seul avec Raspoutine à Saint-Pétersbourg, rebaptisé Petrograd en 1914 en raison de la consonance trop germanique qu'a pris ce nom quand éclate le conflit avec l'Allemagne, la tsarine n'a fait qu'accentuer l'enlisement de la cour et du gouvernement dans un entre-soi délétère coupé de la société russe. Certes, un petit cénacle princier, excédé de voir l'autocratie s'en aller à volo, a fini par assassiner Raspoutine le 17 décembre 1916, trop tard sans doute. Le tsar, revenu quelque temps à Tsarskoye Selo, y a trouvé son épouse anéantie de chagrin et ses ministres dépassés par la situation. À cette époque, la faiblesse du pouvoir donne des ailes à tous les ambitieux. Les députés de la Douma, encore favorables pour la plupart aux principes monarchiques, mais aussi nombre de révolutionnaires qui, depuis 11 ans, rêvent de soviets et de républiques. À Petrograd, des risques de famine amplifiés par la rumeur conduisent de plus en plus d'ouvriers à la grève et certains réservistes à reprendre les armes. Situation pré-insurrectionnelle qu'aggrave chaque jour des incohérences au sommet. Un nouveau président du conseil est nommé, Golitsyn, inexpérimenté en dépit de son grand âge. Il n'a même pas d'autorité sur son ministre de l'Intérieur, Protopopov, lui-même notoirement incompétent au point d'être décrit comme à moitié fou. Pour les Romanov, le ciel s'obscurcit de jour en jour. Fin février, Nicolas II est de retour au grand quartier général de Mogilev sur le Dniepr, pour les initiés, la Stavka. Il est donc loin, très loin de Petrograd, lorsque l'émeute du 25 y éclate. La Douma en ébullition profite des circonstances pour exiger la démission du cabinet et la formation d'un gouvernement responsable devant le Parlement. Quand elles parviennent à l'entourage du tsar, ces nouvelles font l'effet d'un séisme. Le 28, Nicolas II prend la décision de rentrer dans sa capitale. Encore faudrait-il que le convoi impérial puisse circuler. Or, deux compagnies de soldats révoltés ayant occupé la voie ferrée, il est contraint de faire halte à Dno, ce qui veut dire « abîme ». On ne peut s'empêcher de songer à Louis XVI, bloqué à Varennes. Il faut faire machine arrière jusqu'à Pskov, où tout va se jouer. Le tsar a beau se maîtriser et arborer toujours un sourire aussi doux que son regard, il apparaît à ses familiers de plus en plus las et désemparés. Sujet à de lancinantes douleurs cardiaques, il ne peut cacher davantage une fatigue que soulignent ses traits tirés. Mal entouré, mal secondé, Nicolas n'a mesuré qu'imparfaitement l'exaspération des milieux évolués de Petrograd, tout en sous-estimant les ressources d'un empire très puissant, moins malmené par le conflit que ne le prétendent les influents généraux en chef. Sa popularité est presque intacte dans les profondeurs du peuple. Le petit père le sent bien, mais il n'en tire plus pour autant une once de confiance. À l'un de ses aides de camp, le capitaine de frégate Sabline, il a fait dès l'été 1916 cette confidence. « Je sais que quoi que je fasse, cela ne portera pas de bons fruits. Je ne suis pas un homme heureux. Je suis moi-même la destinée fatale de la Russie. » Pskov relève alors, sur un plan militaire, de la responsabilité du général en chef Nikolaï Rouski, celui-ci prenant lui-même ses ordres du patron de la Stavka, le général Alexeyev. Le tsar est assez confiant dans Rouski pour lui faire part de sa réticence à signer le document qu'on exige de lui, instituant le président de la Douma, Rodzianko, premier ministre, et acceptant que le cabinet soit dorénavant responsable devant le Parlement. Il s'y sent contraint néanmoins et demande au général en chef d'appeler au téléphone pour le sonder, le nouveau chef de ce gouvernement de crise. Et tandis que Rouski, en pleine nuit, s'entretient donc avec Rodzianko, Nicolas, retiré dans le compartiment de son train spécial, prie sur les saintes icônes. Avant d'aller prendre un peu de repos, il insiste pour que l'on télégraphie à Alexeïev l'ordre de promulguer son manifeste. Ce qu'il ignore, c'est qu'entre-temps, la situation à Petrograd s'est encore dégradée. La Douma vient de son propre chef d'y désigner un gouvernement dont elle a confié la tête au prince Lvov, un libéral. Elle ne s'en tient pas à cela et ose à présent en appeler au départ pur et simple du tsar. Deux délégués ont même été désignés pour rédiger un projet d'abdication et le porter à Nicolas. C'est ici qu'il faut faire la part d'un facteur majeur qui, plus que d'autres, va faire changer le cours de l'histoire. Il s'agit du choix délibéré presque unanime de la haute hiérarchie militaire en faveur de cette surprenante idée d'abdication. Ni Alexeïev, ni Rouski, ni aucun des principaux chefs d'armée ne souhaitent tourner le dos à la monarchie. Mais entre le désespoir suscité par ce règne et l'espérance d'en dominer un autre, presque tous rêvent de voir Nicolas II passer la main. Or, aux yeux de l'intéressé, élevé dans les principes sacrés de l'autocratie russe, l'idée de ne devenir qu'un souverain constitutionnel relève au fond de l'hérésie encore le spectre de Louis XVI. Aussi Nicolas s'en veut-il déjà en son fort intérieur d'avoir signé le manifeste de la veille, et si la solution en fin de compte était dans cette abdication inattendue. Il y perdrait le pouvoir, mais pas l'honneur. Le tsar y songe toute la nuit. Le lendemain, 2 mars, sur le coup de 10h15, au moment même où Rouski grimpe dans son wagon pour lui rendre compte du long entretien de la nuit, Alexeïev, depuis la Stavka, fait télégraphier à tous les généraux en chef une circulaire les invitant à se prononcer comme lui-même en faveur de l'abdication. Lorsque le tsar en aura connaissance, Rouski le verra pâlir. « Eh bien, Nikolaï Vladimirovitch, qu'en pensez-vous ? » Le malheureux est aussi décontenancé que son souverain. « Sire, la question est si terrible que je demande à votre majesté la permission d'y réfléchir. » Dans son journal, celui qui est encore empereur va noter « Tout autour de moi, ce n'est que trahison, lâcheté et fourberie. » Or, au milieu de l'après-midi, Rouski est de retour devant Nicolas II, porteur cette fois de la réponse des généraux en chef, tous favorables à l'abdication, et accompagné de ses aides, dont le général Danilov, qui racontera plus tard la réaction du tsar à la défiance presque unanime de l'élite militaire. Sa Majesté alla vers sa table et regarda d'un air absorbé par la fenêtre à travers les stores baissés. Ses traits étaient tirés par un mouvement étrange des lèvres. Dans un silence complet, il luttait manifestement au fond de lui-même contre une douloureuse résolution. Et puis, soudain, d'un mouvement saccadé, il annonçait sa décision en faisant le signe de croix. C'est ainsi, dans un train dérouté, loin de tout, que vient d'être prise, pour ne pas dire improvisée, une décision qui, pour les 7 ou 8 décennies suivantes, se révélera très lourde de conséquences tant pour la Russie que pour le reste du monde. À son propos, un cousin du tsar, le grand-duc Alexandre, devait poser plus tard cette question troublante, je le cite, « Depuis quand un souverain abdique-t-il pour une disette passagère de pain et quelques désordres partiels dans sa capitale. La trahison des réservistes de Saint-Pétersbourg, mais le tsar avait une armée de 15 millions d'hommes à sa disposition. Niki avait-il donc perdu le sens commun ? » Disons plutôt que Nicolas, comme Louis XVI, se laisse guider par sa hantise de la guerre civile et un refus viscéral de s'imposer par la violence, les mêmes causes devant produire des effets comparables. À peine le tsar a-t-il dicté les dépêches qu'il destine respectivement à Rodzianko et Alexeïev, qu'on lui annonce l'arrivée imminente des 2 émissaires de la Douma, les députés Alexandre Gouchkov et Vassili Choulguin. Nicolas, fataliste, fait donc reprendre les dépêches et ordonne qu'on prépare du thé. Mais lors d'une courte promenade sur les quais enneigés de Pskov, son médecin Fedorov lui fait observer qu'une fois l'abdication signée, il ne pourra en aucun cas conserver auprès de lui le jeune Tsarevitch, devenu tsar mineur sous la régence de son oncle Michel. Et cela, Nicolas ne peut l'entendre. Il tient à son fils malade comme à la prunelle de ses yeux et ne s'imagine nullement expliquer à la tsarine qu'il leur faudrait s'éloigner de lui. C'est ainsi que va naître dans l'esprit du tsar l'idée étrange de passer par-dessus les lois fondamentales et de renoncer au trône pour son fils autant que pour lui-même, ainsi abdiquera-t-il en faveur de son frère, le grand-duc Michel. Les émissaires de la Douma vont arriver bien tard, après 22 heures. Pour éviter que Rouski ne les circonvienne, ils sont pris en charge à bord de leur propre train par un aide-de-camp impérial qui les conduit sans délai auprès du tsar. Les deux parlementaires sont aussi choqués par les grands désordres dont ils ont été les témoins à Petrograd qu'émus de se retrouver à l'épicentre d'une scène historique entre toutes. L'entretien qui va suivre est surréaliste avant l'heure. Il en ressort que le règne de Nicolas II touche à son terme. J'ai réfléchi longuement hier et pendant toute cette journée, leur annonce le tsar, et j'ai pris la résolution d'abdiquer. J'étais prêt à le faire en faveur de mon fils, mais j'ai compris plus tard qu'il me serait impossible de me séparer de lui. Personne autour du souverain ne lui fait alors observer que rien, ni les circonstances, ni la tradition, absolument rien ne l'oblige à prendre aussi vite une décision aussi lourde. À la fin, celui qui vient de se débarrasser d'une couronne sacrée multiséculaire, comme on se libérerait d'une simple charge administrative, demande aux deux émissaires, accablés de fatigue et ivres d'une importance indue, « Messieurs, pouvez-vous prendre la responsabilité de garantir que mon abdication rétablira le calme dans le pays et ne provoquera aucune complication ?» Question d'une incroyable naïveté à laquelle ils acquiescent par l'effet d'un cynisme non moins incroyable. S'étant donc débarrassé de cette couronne qui lui a tant pesé depuis le premier jour, une couronne qu'il avait eu conscience de ceindre bien trop jeune, comme Louis XVI, toujours, l'ancien tsar repart en train vers l'ouest, vers la Stavka, dans l'intention d'y faire ses adieux à l'armée. C'est là que le rejoindra sa mère, l'impératrice douairière Maria Fiodorovna, plus morte que vive, car bien consciente pour sa part de l'inconséquence inouïe de tout cela. Entre-temps, on aura appris à Moguilev que le grand-duc Michel, après s'être entretenu avec le gouvernement provisoire et avec le président de la Douma, a renoncé à devenir tsar. Ainsi, la dynastie des Romanov, vieille de 303 ans, a-t-elle cessé de régner en Russie ? Ainsi, la monarchie russe elle-même a-t-elle rendu l'âme ? Devant sa mère éplorée, Nicolas ne va même pas chercher à se justifier, simplement, il regrette que son frère ait refusé la couronne, laissant la Russie sans souverain. « Micha n'aurait pas dû faire une chose pareille, ne cesse-t-il de soupirer. Je me demande bien qui a pu lui donner un si étrange conseil. » Les personnes présentes, gênées, détournent le regard, mais le grand-duc Alexandre le notera clairement. Cette remarque, venant de l'homme qui avait abandonné le sixième de la surface terrestre à une bande de réservistes et d'ouvriers révoltés, me laissa sans parole. Quelques mois plus tard, la révolution va dégénérer. Passée aux mains des bolcheviks, elle plongera la Russie dans les affres, condamnant les Romanov à mort.